Cyril Lacadon-Boudali.
Bonjour à tous.
Salut Villa.
Bonjour.
Frédéric Cyrus.
Bonjour.
Daniel.
Bravo Daniel.
Et notre invité Brigitte Fossé.
C'est pas possible.
Merci.
Bonjour. C'était quoi déjà le surnom que vous donnez Jean-Claude Brialy pour Amatuel? C'est la princesse.
Ça commence très fort.
C'était la princesse du festival. Non, la petite.
La petite princesse du festival. La petite fiancée du festival.
La petite fiancée du festival.
Parce que j'étais amoureuse de lui quand j'avais 11 ans. Je l'avais rencontré
dans
l'avion, je lui avais demandé un autographe, et puis il m'avait reconnu, il avait mis en souvenir des Jeux Interdits, donc ça, il s'en est toujours souvenu, et après il m'a suivi, et on lui rend hommage d'ailleurs au Festival du Livre et du Vin, bientôt.
Et les Jeux Interdits?
Ça, c'est pour rendre hommage à Jean-Claude Brialy.
C'est le clin d'œil, voilà. C'est le clin d'œil global. En tout cas, on est ravis d'avoir Brigitte Fossé à ce micro. Elle vient nous parler de Faux pas lui dire, le premier film de Solange Sicquerel qui sort en DVD. Est-ce que Tom Villa, vous avez compris pour une fois pourquoi notre invité était notre invité aujourd'hui? Mais et pourquoi Brigitte Fossé est là?
Évidemment. Bonjour, Brigitte Fossé.
Bonjour.
Oh non, arrêtez en régie, vous êtes con, putain, vous êtes relou. Hein. On a dit qu'on n'en parlerait pas. Ah oui, évidemment, Brigitte Fossé, c'est la boum. Hein, et je dois vous avouer que tous les garçons sont amoureux de Sophie Marceau, et moi non. C'était pas Claude Brasseur non plus. Hein. C'était...
Ah bon, t'as changé d'avis.
Brigitte Fossé. Alors voilà, la vie est trop courte. En plus, vous avez un prénom qui revient à la mode. Je pourrais votre Emmanuel. Et on pourra marcher. Nous marcherons main dans la main dans la cour Napoléon du Louvre.
Ah oui.
Et le reste, ça nous regarde. Bref, on en reparle après. Alors Brigitte Fossé, vous venez pour la sortie du DVD du film Faut pas lui dire.
DVD.
Cool.
La vérité, ça fait plaisir de vous voir.
C'est chconada.
C'est pas la vérité si je mens. Hein. C'est fallait pas lui dire.
Faut pas lui dire.
Oui, faut pas lui dire.
Faites
pas
la bonne conjugaison. Hein. Faut pas lui dire. Donc le pitch. Donc c'est à la veille du mariage de leur cousine. Trois femmes qui décide de ne pas lui dire que son futur mari la trompe. C'est pas faut pas lui dire qu'il aurait fallu appeler le film, mais je vais épouser un connard et personne ne me prévient. Non mais c'est vrai, faut pas lui dire. C'est un film qui parle des ces petits mensonges qu'on dit pour protéger les gens, comme « Mais si, ma chérie, cette robe ne te boudine pas du tout, vous voyez, j'ai du mal à le dire. »
Même ça, tu n'arrives pas à le dire. Ouais.
Ou encore « Mais si, François, t'avais toutes tes chances pour passer le premier tour. » Non, mais c'est pas des vrais mensonges, c'est juste pour pas faire de la peine. D'ailleurs, il est très bien ce pull, Nagui. En fait...
C'est-à-dire, tous les jours, tu vas parler de mes fringues sans laguer. Demain, j'ai bien réfléchi avant de m'habiller. Je vais penser à toi.
Moi aussi. Non, mais c'est pas des vrais mensonges, c'est juste pour pas faire de la peine. En fait, c'est pas vraiment un mensonge dans le film, c'est un mensonge par omission. Voilà, c'est pas pareil. C'est comme quand Fred oublie de nous dire qu'il a oublié de se brosser les dents. Et ben voilà, c'est ou comme quand Balkany oublie de déclarer sa maison au Maroc. Techniquement, c'est pas un mensonge. C'est une sorte d'Alzheimer très bien choisi. Par exemple, les abstentionnistes, ils devraient juste nous dire qu'ils allaient oublier d'aller voter. On les ferait sûrement moins chier, tu vois. Non, mais c'est vrai que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Par exemple, quand je me réveille avec la tronche en vrac le matin, je préfère que ma copine me dise oh t'es beau mon amour, plutôt que tiens c'est marrant, j'avais jamais remarqué que tu ressemblais à Jean Lassalle, tu vois, c'est pas un mensonge, c'est de la diplomatie. Alors,
très voilà, bonne imitation.
Non mais imaginez si on se disait la vérité tout le temps, déjà l'humanité serait éteinte depuis l'âge de pierre, et puis on n'aurait jamais eu la religion. Ah bah la religion c'est que du mensonge. Vous allez me faire croire qu'un mec qui marche sur l'eau en 2000 ans, il y a bien au moins un gars qui aurait réussi à le refaire, hein. Bah, voilà.
Ah oui, il y a Nixon sur le Potomac, il a réussi.
Voilà, me niquez pas mes blagues, Brigitte. Ça m'arrange. Non mais sans le mensonge, on n'aurait jamais eu de roman, de cinéma, de théâtre. Jacques Chirac président, ça aurait été triste, surtout pour lui. Bref, vive le mensonge libre et n'oubliez pas Brigitte, j'ai deux coupes-fil pour le Louvre.
Voilà les références.
Ah ouais.
Allez, faut suivre. Merci Tom Villa.
Bah oui. Ah c'est le mieux.
Nagui sur France Inter.
Faut pas lui dire, donc, ce premier long métrage signé par Solange Sicquerel, dans lequel vous êtes aux côtés, chère Brigitte Fossé, aux côtés de Jennifer Bartoli. Alors, Jennifer Bartoli, c'est Jennifer. C'est-à-dire que là, elle a rajouté son patronyme parce qu'elle est comédienne.
Elle joue très très bien.
Pas du tout chanteuse,
elle est belle,
absolument.
Elle a un charme. Là, Audrey Hepburn, elle est magnifique.
Camille Chamou est également présente. Stéphanie Crayancourt et Tania Garbarski. Voilà, j'espère que je les ai bien descendus.
On appellera Tania le reste de l'émission. Hein.
Oui. Alors, Garbarski, non, c'est une question d'entraînement,
ouais,
en fait. C'est une question d'entraînement. Et alors, Brigitte, vous êtes la maman, parce que les quatre sont liées, mais sont pas toutes vos filles dans le film, c'est ça?
C'est-à-dire que j'ai trois filles et il y en a une que j'ai élevée. Et ça m'amuse beaucoup. Quand j'ai lu le scénario, j'ai ri tout le temps. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, quand il y a une comédie, si j'arrive à lire en riant, je le fais parce que ça veut dire que c'est drôle. Par exemple, quand j'avais fait Grosse Chaleur de Ruquier, j'avais ri tout le temps en le lisant. Et en même temps,
Avez-vous un contre-exemple d'une pièce ou d'un film que vous avez lu, que vous avez refusé parce que vous n'avez pas ri?
Non. Non, il y en a beaucoup que j'ai fait aussi parce que j'avais pleuré. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'un scénario, ça parle vraiment. Et le scénario de Solange, il était très parlant. Et
alors plus, c'est un mensonge pas que par omission, c'est un mensonge par amour tout le long du film.
Oui, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que moi, je m'en rends bien compte. Par exemple, quand j'ai une amie dont on sait qu'elle est trompée, je veux dire, est-ce qu'il faut lui dire, est-ce qu'il faut pas lui dire, j'en sais rien, parce que lui dire c'est épouvantable parce qu'elle souffre horriblement, mais ne pas lui dire alors qu'elle va se marier, c'est plus délicat.
Bah surtout s'il l'a trompée avec vous. C'est très très délicat, hein. Très très délicat.
Et puis c'est dangereux.
Non, pour moi l'amitié c'est une forme d'amour, par conséquent.
Vous l'avez déjà vécu ça autour de la table?
Non, jamais.
Non, Daniel. Non, est-ce que t'as su qu'un pote ou qu'une copine était cocu et tu t'es posé la question de est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas?
Oui, bien sûr.
Ça t'est arrivé? T'as fait quoi?
Ben, ça dépend.
Non, mais c'est excusé déjà.
Tant de cas. Oui, bien sûr.
Je fréquente des salauds.
Je fréquente aussi des salauds.
Leïla?
Non.
Je m'entends très bien avec vous, Nagui.
Non, ça m'est jamais arrivé directement au sens où je ne connaissais pas les deux. Je connaissais celui qui trompait. Mais pas celui qui était trompé, mais j'avais quand même une tristesse en pensant à celui qui était trompé, qui ne le savait pas, mais après...
Fred, c'est Chris ?
Non, moi ça m'est jamais arrivé, mais parce que je n'ai pas d'amis.
Tom,
non, mais un peu le même cas de figure.
On avait dit qu'on parlait pas de Mathieu Malédian.
un peu le même cas de figure. Je connaissais celui qui trompait, mais voilà. Donc on enchaîne. Brigitte Fosset, donc film.
Non, mais c'est intéressant de savoir parce que.
Et vous connaissez Nagui ou pas?
Moi ça m'est arrivé.
La même personne que moi.
J'ai pas voulu donner l'information à la personne qui était trompée. Par contre, j'ai fait passer des messages un peu...
Des photos.
Un peu lourd. Non, mais tu sais, comme, est-ce que t'es vraiment sûr? Est-ce que t'es confiant? Est-ce que t'es sûr qu'elle est fidèle? Et ainsi de suite. Donc, j'ai pas eu le courage, puisque c'est la question qu'on se posait, le courage de dire ou d'être le porteur de mauvaises nouvelles.
Ouais, c'est impossible.
Non, mais parce qu'on est d'abord, on est qui pour juger de cette histoire? Et en même temps, on veut quand même protéger son ami pour pas qu'il se fasse des films.
En fait, l'idéal, c'est d'arriver à faire rencontrer à la personne qui est trompée quelqu'un de très 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 bien dont elle tombe très amoureuse et qui fasse que, à son tour, elle se rende compte.
Et là, c'est le côté manipulatrice que l'on retrouve.
C'est mon personnage dans le film. Oui. Enfin, moi, je suis pas comme ça dans la vie, mais
je parle de votre personnage. Oui. Même s'il y a un switch à la fin qu'on ne va pas révéler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Le film étant sorti au cinéma il y a à peine 6 mois. C'est le rythme normal de la sortie ensuite d'un DVD et qui a le mérite d'avoir un bêtisier, qui a le mérite d'avoir des scènes coupées. Vous les avez vues d'ailleurs, ces scènes coupées, ce bêtisier ou pas?
On les a tournées quand même. Donc,
Je les ai pas vues, DVD qui sort aujourd'hui ou demain, c'est ça?
C'est ça.
Oui.
Il sort, aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui.
On va vous l'offrir.
La sortie en DVD, c'est aujourd'hui. Non, parce qu'il y a des scènes coupées et vous en êtes aussi. Alors, je me demandais comment on réagit quand on a tourné un film et qu'on a vu qu'il y avait...
Et qu'il y a plus de scènes coupées de soi dans le bêtisier.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et que dans les scènes coupées, on est quand même présente. On se dit, mais pourquoi ils ont enlevé celle-là? Pour le rythme de l'histoire? On est un peu frustré ou pas, j'imagine.
Moi, je dois vous avouer que quand j'ai vu Faut pas lui dire, je me suis pas du tout rendu compte que j'avais été coupée parce que déjà au départ, j'avais des scènes très très brèves et très parsemées dans le film, donc j'ai pas réalisé que j'étais coupée. Je pense pas que j'ai été coupée d'ailleurs.
C'est des scènes clés. Il y en a. Alors, je vais vous raconter. Hors antenne, je vous dirai laquelle.
D'accord.
Mais qui est encore plus, qui explique encore plus l'influence que vous avez sur la présence des uns et des autres.
Oui, en fait. Il faut garder le suspense, c'est très très important. Mais ce qui est chouette, moi je trouve, dans ce film, c'est qu'il y a 4 filles qui sont très différentes les unes des autres, qui s'adorent. C'est un film sur l'amitié essentiellement. Et Solange Sicurel, la réalisatrice, elle est très proche des femmes parce que c'est son premier long métrage. Elle avait fait un très joli court métrage
qui s'appelait Einstein, voilà. Et était un réfugié.
Merci.
qui a été primé
magnifique, ouais. Avec la même productrice Diana Elbaum. Elles sont devenues très amies toutes les deux. Elles ont voulu faire un film sur l'amitié des femmes entre elles. Et bon, moi je sais que ça existe aussi entre les hommes. Je suis pas sexiste. Je pense que ça existe aussi entre les hommes.
Elle a clairement dit d'ailleurs, Solange, dans une interview, qu'elle faisait un clin d'œil aussi à au cœur des hommes. Oui, c'est ça. C'est à cette espèce de saga et d'amitié comme ça qu'il peut y avoir entre.
Mais ce qui est intéressant chez ces quatre filles, c'est qu'elles ont toutes la quarantaine. C'est-à-dire qu'elles ont l'âge de ma fille et elles représentent en fait quatre visages des jeunes femmes aujourd'hui qui ont aimé très fort une première fois, qui pour X raisons n'arrivent pas à se réinvestir dans une autre histoire parce qu'elles ont été trop blessées. Et il y en a une, Tania, qui est donc une espèce de que j'ai adoptée parce que sa mère est morte, qui elle est amoureuse de son père et elle n'arrive absolument pas à briser des relations privilégiées parce que sa mère est morte, donc elle a une histoire d'amour avec son père qui est un amour fou, une passion folle, elle s'en rend même pas compte. Et chaque fois que quelqu'un lui fait la cour, elle démontre que le type est pas à la hauteur. Et ça, j'ai connu une femme très intelligente qui était comme ça, qui était quand même dermato et qui me disait oui, oh, mon mari il est nul à côté de mon père, etc. Ça existe aussi.
Tellement
ça.
Elle idolâtrait son père.
Mais c'est pas le cas de toutes les filles, non?
Tu veux nous parler d'un truc?
C'est pas un peu le cas de toutes les femmes, ce rapport à la figure paternelle, de se dire que l'homme qu'on rencontre peut être fabuleux, mais qu'il y a quand même un homme supérieur dans toutes circonstances, c'est le père.
Non, mais c'est l'Oedipe, oui, mais comme chez les garçons avec leur maman, j'imagine.
Oui, ça dure toute la vie, non?
Oui, puis il y a des femmes qui aiment tellement leur père qu'elles ne s'en rendent même pas compte et qu'elles choisissent exactement l'opposé. Mm-hmm. Et finalement, elles se rendent compte qu'au bout de l'opposé, c'est le même quand même. Ça, c'est terrible.
Mais les filles d'Émile Louis étaient très attachées à leur papa.
Ouais, c'est ça, ouais. qui lui-même attachait ses filles. Il y a le parcours de Solange Sicurel, en plus, autour du mensonge, est assez intéressant, puisqu'elle était avocate. Donc, j'imagine que la quête de la vérité...
Oui, c'est ça, avocate, et aussi, elle est formidable, parce qu'elle appartient à une association...
Elle était spécialisée dans les droits des étrangers.
Dans le droit des femmes, et elle plaidait souvent gratuitement pour des Africaines qui étaient victimes d'excision ou des choses comme ça. Donc c'est une fille qui est très engagée dans les droits de l'homme et qui en même temps a un sens vertigineux de la comédie. Et puis elle est très très humaine et bon voilà, il y a un côté comme ça, comédie, où on est très très près de la vie des gens, mais en même temps il y a un côté délirant. Je trouve que c'est un coup de maître pour un premier film.
Ça s'appelle Faut pas lui dire.
Il y aura une suite de prévu parce qu'on parle de...
Elle en avait envie en tout cas.
Le cœur des hommes, ouais. Donc c'est vraiment une sorte de saga. Est-ce que là, on pourrait imaginer vous retrouver entourée encore de toutes vos filles pour la suite des aventures?
Mais il faut téléphoner à Solange pour lui en parler. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Faut pas lui dire, le film de Solange Sicurel, avec Brigitte Fossé qui est notre invitée, Tania Gabarski, Stéphanie Crayancourt, Camille Chamou et Jennifer Bartoli, qui sortie donc de The Voice se retrouve à être maintenant comédienne, et c'est vrai qu'elle est efficace dans son interprétation, et elle joue d'ailleurs le rôle d'une avocate, donc on a le sentiment de voir peut-être ce que pourrait être Solange Sicurel aussi dans la vie.
Oui, exactement.
C'est ça, c'est la plus proche en tout cas du personnage.
Oui, mais elle est beaucoup plus expansive que Jennifer dans le film, et elle a beaucoup d'humour et ça déménage sur un plateau, hein. C'est vraiment, il y a une ambiance formidable.
Vous en avez des bons souvenirs, en tout cas.
Ah oui, formidable.
Faut pas lui dire, donc en DVD, à partir d'aujourd'hui. Vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Brigitte Fossé dans cette émission, Leïla.
Et oui, et Brigitte, quand je pense à vous, je pense à plusieurs films, notamment un film culte et à un face-à-face avec un monstre.
Ton mec, il a une perme.
Oui.
Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu.
2 mois.
Ça va être ta fête. Vous irez où?
Je sais pas. À l'hôtel.
C'est vous face à Depardieu dans Les Valseuses.
Et Patrick Devers.
Et Patrick Devers, oui. Un rôle que votre agent ne voulait pas que vous acceptiez. Et c'est un rôle aussi qui déplaisait, je crois, à vos parents.
Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, je venais de tourner dans Le Grand Môn, donc... C'était un peu le mythe de la jeune fille pure, etc. Et donc, en fait, mon rêve, c'était de jouer un rôle de fille un peu fragile, un peu idiote, un peu déjantée. Et je voulais la défendre, parce que finalement, les meilleurs films, les meilleurs rôles, ce sont les rôles qui ne parlent pas beaucoup et qui sont dans une situation forte. Mmh. Et je me souviens que, voilà, j'ai tout de suite, je suis tombée amoureuse du scénario, une fois encore, là, de Bertrand Blier, parce que j'avais lu son livre, Les Valseuses. Mmh. Je venais de lire tous les livres d'Henri Miller, par conséquent, Les Valseuses, bon, ça ne m'avait pas choquée du tout. Mmh. Et j'avais trouvé ça très, très bien écrit. Et puis, bon, j'ai rencontré Bertrand Blier, qui m'avait demandé, donc, s'il pouvait me rencontrer, avec le merveilleux producteur Paul Claudon, qui était un amour. Et alors, je me retrouve dans leur bureau, et puis, Bertrand Blier me dit, alors, montre-moi tes seins. Alors, je lui dis, écoutez, non, je ne voulais pas me faire ce coup-là, quand même, excusez-moi, mais ça ne marche pas. Alors, il me dit, mais pourquoi il faut que tu me montres tes seins, puisque dans le film, tu vas être agressé par Depardieu et Devers. Je lui dis, écoutez, il faut me faire confiance sur mon talent dans tous les domaines, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Alors, après ça, il me dit, non, écoute, sans déconner, c'est vrai que tu veux faire un truc pareil, toi? Je dis oui, parce que Tennessee Williams a dit que quand on est acteur, on doit tout jouer. On ne peut être acteur que si l'on est persuadé que rien de ce qui est humain n'est honteux. Il faut défendre Hitler, il faut défendre les pauvres filles qui montent leur sein pour un billet de 100 balles. Et donc, finalement...
Défendre, je ne sais pas si défendre est le mot approprié.
Défendre Hitler, rôle,
oui, enfin, c'est ça, oui, le porter en tout cas, l'incarner. Mmh.
Oui, mais je voulais défendre le rôle, parce que...
Oui, voilà, c'est ça, d'accord.
C'est grâce à Bertrand Blier, d'ailleurs, parce qu'après chaque phrase, il mettait la fille un peu nunuche, dit, la fille baisse les yeux bêtement et avance, il y avait oui, ben non, ben oui. Et je me suis dit, mais enfin, il y a une âme derrière ça, il y a quelqu'un qui pense, qui vit, qui vibre, et pourquoi est-ce qu'elle se laisse faire comme ça? Alors, donc, j'ai travaillé avec mon prof, Andreas Voutsinas, qui avait travaillé avec Lee Strasberg, qui m'a coaché et qui m'a dit, tu vois, tu devrais inventer une chose formidable. C'est une ancienne prostituée qui a décidé de vivre amoureuse de son petit mari avec son bébé, de vivre bien, mais ils ont pas d'argent. Et tout à coup, il y a le vieux démon qui repasse. Et là, elle est au bord du précipice et elle perd la tête. Et je trouvais que c'était une très belle idée. Et ça m'a passionnée et j'ai adoré faire ça. Et puis, Jean Genet a vu le film. C'était la scène qu'il avait préférée, en fait.
Et vous avez dû prendre du poids pour ce rôle, oui. Parce que justement, vous êtes censée allaiter un bébé et il y a un subterfuge pour que le bébé vienne téter. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que vous avez cogité pour ce coup-là, là.
Bon, bah, à part ça, je crois quand même que Jésus a marché sur l'eau, parce que je suis acubénie et je suis chrétienne. N'oubliez pas.
Pardon.
Mais à part ça, quand je suis comédienne, je fais mon métier très consciencieusement. Par conséquent, pour prendre des seins, il a fallu que je prenne 8 kilos, parce que en vérité, j'ai les mêmes seins que Jane Birkin, donc il a fallu que je prenne beaucoup, beaucoup de kilos.
Et vous avez pris dans les seins, ça c'est pas mal.
Et puis pour que le bébé tète, je me suis renseignée auprès des docteurs. Je dis, comment je peux faire pour avoir du lait? Et il m'a dit, il faut boire de la bière, mais ça, le lait viendra pas. Je dis, mais comment est-ce que je peux faire pour le faire téter vraiment?
Alors il m'a dit... Vous vouliez avoir une vraie montée de lait?
Comment?
Vous vouliez une vraie montée de lait?
Ah bah oui, j'aurais voulu une vraie montée de lait. D'ailleurs, j'en ai appris beaucoup sur les montées de lait.
D'accord.
Hein. J'ai appris que les garçons à 14 ans ont parfois des montées de lait parce que au moment des pithécanthropes, quand on vivait dans les cavernes, quand la mère mourait, le père avait une montée de lait pour...
Remplacer la mère.
Pour remplacer la mère.
Incroyable.
C'est pour ça que, messieurs, vous avez des seins.
D'accord.
C'est beau, non, comme histoire?
Ah oui, oui, oui. Alors, finissez alors. Donc, vous avez fait quoi? Vous avez bu de la bière?
Alors, j'ai bu beaucoup de bière, qui est très, très, très agréable. Et, puisque je suis du Nord, donc je suis ch'ti, donc la bière...
Oui. Ça va?
Enfin, je dois reconnaître que la bière tchèque, c'est quand même la meilleure. Et finalement,
modération pour nos amis tchèques.
Avec modération.
Alors finalement, ce que j'ai fait, c'est que le docteur m'a dit, mais c'est très simple, vous mettez un peu de miel au bout du téton et le bébé va téter. Alors j'ai dit à Bertrand Blier, écoutez, il ne faut pas la louper celle-là, hein, parce qu'il ne va pas se faire avoir deux fois. Donc, et voilà, c'est comme ça qu'on a fait.
Et Hitler, dans tout ça.
du miel.
Comment?
Et Hitler.
Non. Non, parce que vous avez
Hitler
dit, vous avez,
parce défendre. Que je disais qu'il fallait défendre les imbéciles et les tyrans, et que quand on est acteur, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de la morale.
Alors
et
justement,
c'est ce que Nietzsche disait, la vraie morale.
Je ne sais que trop.
Se moque
moi,
de la morale.
Comment tyran, je travaille avec un tyran. Je comprends très bien ce que vous dites.
Ce que disait tout à l'heure Leïla, c'est-à-dire votre décision contre la vie de toutes et de tous, de jouer.
L'agent, la famille.
Qu'est-ce qui était votre motivation? moteur, au-delà de dire il faut défendre tous les rôles au cinéma, quand on a quand même ses propres parents, son agent, peut-être des amis autour qui disent non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas bien pour ton image de jolie, brillante comédienne, pure. Tout ce que, oui, de pureté, oui. De toute l'image que vous pouviez avoir et que vous avez toujours d'ailleurs, je tiens à préciser, mais d'avoir ce courage-là de tenir tête à tout le monde, c'est quand même passé quelque chose, non ?
Parce que j'ai le sentiment, enfin, ma mère disait toujours que à l'intérieur de soi, une petite voix qui dit fais-le ou le fais pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Oui, mais qu'est-ce qui fait marcher
cette petite voix ? Il y avait ma petite voix qui disait ça c'est bien, c'est un rôle formidable, il faut le faire, il faut foncer. Je suis tombée amoureuse
du
rôle.
Pour une petite voix, elle parle fort, hein, quand même.
Brigitte Fossé est à l'affiche de Faut pas lui dire, le film de Solange Sicurel. Tu avais quelque chose à rajouter, Leïla, je t'en prie.
J'avais une autre idée aussi, oui. Quand je pensais à vous, Brigitte Fossé, je pensais à un autre face-à-face, un autre film culte. Il y en a beaucoup dans votre filmographie.
Ah oui, ça c'est sûr.
Allez, on écoute.
Ça vous ennuie pas, je conduis, sinon je vous laisse le volant.
Non, au contraire, j'aime bien te conduire par une femme. Je n'ai sûrement pas réussi à supprimer toute vanité masculine en moi, mais en tout cas, j'en mets aucune dans ces choses-là.
C'est vrai, je m'en suis rendu compte en lisant votre livre. Vous n'êtes pas un Casanova, vous n'êtes pas un donjon. Vous savez comment je vous vois, malgré votre air ténébreux.
Non.
Vous ne cherchez pas à paraître viril à tout prix.
L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut est face à vous, Charles Denner. Un Truffaut qui a été d'une élégance absolue quand il vous a contacté.
Ah oui, c'est la plus belle chose qui soit, qui me soit arrivée. À part ma rencontre avec Robert Altman et Paul Newman, c'est vraiment François Truffaut parce qu'il m'a téléphoné. Je crois qu'on était au mois de mai, une chose comme ça. Il m'a dit, écoutez, voilà, on m'a donné votre numéro de téléphone. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis François Truffaut. Alors, non, vous ne me dérangez pas du tout. Écoutez, voilà, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de m'autoriser à écrire un rôle pour vous ? Je voudrais écrire un film qui va s'appeler L'homme qui aimait les femmes, où il y aura beaucoup de femmes. Ça ne vous ennuie pas qu'il y ait aussi beaucoup d'autres femmes? Alors je lui dis non, absolument pas. Il me dit, mais alors vous comprenez, je vois un petit peu votre rôle comme la vedette anglaise, c'est-à-dire la femme qui a le rôle principal et qui organise tout autour des autres femmes. Je lui dis, mais écoutez, vous n'avez pas de scrupules à avoir. Moi, si vous voulez me faire ouvrir une porte et dire bonjour avec vous, je le ferai de toute façon. Et 3 mois plus tard, on a déjeuné ensemble, il m'a parlé de son scénario et il me l'a donné. Et c'était magnifique. Et puis, 6 mois ou 8 mois plus tard, on a tourné. Et ça a été merveilleux. Enfin, moi, j'avais vu tous ses films, hein, même Les Deux Anglaises et Le Continent. J'avais vu 5 fois Jules et Jim, qui était pour moi le nec plus ultra. Et j'avais vu tous les films de Truffaut. Et en plus... Mon premier mari, Jean-François Adam, avait été assistant sur un de ses films. Et donc, je savais beaucoup de choses sur lui. Et j'ai eu avec lui une relation absolument magnifique. Parce que l'homme qui aimait les femmes, c'était quand même lui. C'est-à-dire qu'il adorait toutes les femmes. Et moi, je m'étais juré que j'aurais avec lui une amitié pure comme une arabesque. Et donc, je voulais absolument rester copine avec lui. Et on a eu un rapport d'homme à homme, si je puis dire. Il m'invitait à dîner le soir. On regardait les films à la télé.
Autrement dit, il y a eu un jeu de séduction entre vous.
Il n'y a pas eu de jeu de séduction entre
nous.
Il
a essayé, ou vous vous êtes dit justement, il faut pas que je craque et il faut que je reste.
Ah non, il n'y a pas pu y avoir de jeu de séduction parce que j'ai annoncé la couleur tout de suite en lui disant, écoutez, voilà, moi, ce que je veux, c'est votre amitié. Je veux absolument que vous sachiez que je ferai tout ce que je peux pour votre film, mais je voudrais qu'on soit amis. Donc, t'es un homme élégant, il n'a pas insisté, il n'a même pas essayé. Je veux dire, c'est hors de question au départ. Peut-être d'ailleurs qu'il ne m'aurait pas fait la cour, j'en sais rien. Mais en tout cas, il était vraiment.
Vous aviez besoin, en tout cas, de le prévenir dès le début pour ne pas que cette amitié soit. Terni, ouais.
Oui, parce que c'était un fou de cinéphilie, on avait beaucoup d'amis communs, Marie-France Pizier, entre autres. Et donc, je savais beaucoup de choses sur lui, et donc j'avais envie de devenir sa complice, et c'est ce qui s'est passé. Après, on a fait une tournée en Amérique, on a été présenter le film à New York, à San Francisco, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur le cinéma grâce à lui. Il aimait bien la façon dont je parlais du cinéma aussi, et voilà, ça a été un moment merveilleux pour moi, et surtout, travailler avec Charles Denner, qui est pour moi la voix la plus extraordinaire quand on l'entend, on le reconnaît tout de suite. Mmh. C'était une voix exceptionnelle, une voix de théâtre et une voix de cinéma. Et ça a été très délicat parce que c'était un homme qui avait autant d'expérience que le trac. Il était tellement nerveux que quand je travaillais à côté de lui, je sentais des piquants, je pense, des décharges.
Non, mais ce qui est surprenant, vous
des
dites
décharges
que,
électriques.
Vous dites que l'homme qui aimait les femmes, c'était Truffaut, mais c'est le choix du casting. En tout cas, on n'est pas dans la même obscurité. J'ai l'impression d'énerver, il y a ce côté un peu beauté obscure que Truffaut n'a pas spécialement. Sa voix est déjà plus légère, plus fragile.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, si vous voulez, Denern n'est pas non plus d'une beauté fulgurante. Simplement, Truffaut et lui avaient un point commun, c'est qu'ils étaient timides et qu'ils n'avaient pas le physique du Don Juan. Et je crois que la grande originalité de Truffaut, d'accord, c'est d'avoir demandé à un garçon comme Denner d'être un Don Juan. Alors, en fait, c'était inattendu, très inattendu.
Et est-ce que tous les réalisateurs étaient aussi élégants que Truffaut quand ils vous ont contacté, quand ils vous ont approché? Est-ce qu'à l'époque, les réalisateurs étaient attentionnés?
J'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Claude Sauté pour Un mauvais fils parce que bon, il avait lui aussi, je pense, pensé à moi quand il avait écrit le rôle. Il me l'avait dit d'ailleurs, comme il avait pensé à Patrick Devers. Simplement, il voulait m'approcher peu à petit, un peu comme un oiseau qui sautille en faisant piou-piou, puis après il repartait à l'intérieur. Et chaque fois, son piou-piou, c'était me raconter le film en entier. Il racontait le scénario en entier. Et en même temps, il pleurait tellement ça le touchait. C'est-à-dire que c'est un des films dans lequel il a mis le plus de lui-même parce qu'en fait, il avait des relations difficiles avec son fils et voilà, il a projeté beaucoup de choses.
Lui aussi, comme Truffaut, il y avait beaucoup de lui dans le rôle qu'il avait écrit pour.
Oui. Et ça me touche énormément d'ailleurs parce que finalement, que ces deux metteurs en scène aient pensé à moi pour des choses tellement personnelles et qu'ils me les aient un petit peu confiées, enfin à 5% pour le rôle, ça m'a plu parce que je trouve qu'un acteur doit se mettre dans la tête d'un metteur en scène et deviner pourquoi et comment il écrit. C'est comme ça qu'on peut enrichir notre interprétation.
Cette voix passionnante de Brigitte Fossé qui est à l'affiche de Faut pas lui dire, le DVD sort aujourd'hui, vous la retrouvez également dans des lectures. Et on en parlera tout à l'heure avec vous parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous tout au long de cet été que vous avez donné dans différents festivals pour lire du Prévert, des textes sur les chats en littérature aussi. Enfin, il y a plein de textes qui vont arriver, de rencontres future et passionnante avec Brigitte Fossé. Mais d'abord, un autre style, une autre voix.
Un autre physique.
Aussi. Ça c'est clair. Mais à la radio, on s'en rend moins compte. Voici ouais, Frédéric Sigrist.
Eh bien, ça y est, nous Français, enfin, une partie des Français, parce que 66% des lecteurs, c'est pas 66% de la population, a choisi le nouveau président qu'on va pouvoir blâmer pendant 5 ans pour tout ce qui ne va pas dans nos vies. Sur l'échelle des boucs émissaires préférés des Français, président, c'est juste au-dessus de l'Europe et en dessous des Arabes. J'ai remarqué que les élections, en fait, ont un peu le même effet sur certains Français que l'alcool sur Daniel Morin. C'est-à-dire qu'au début, il y a une forme d'euphorie, et puis très vite, ça se met à débiter tout un tas de conneries, ça devient violent, ça insulte et à la fin ça se termine par une engueulade, une séparation et des fois même, on l'a vu, par une démission. Enfin bref, un grand moment de n'importe quoi pour des individus qui, rappelons-le, nous voient le plus souvent comme un troupeau de bovidés qu'il faut traire tous les 5 ans pour recueillir le lait de leur propre réussite. Emmanuel Macron est donc devenu le 25e président de la République française. Ce qui, entre nous, est quand même plutôt rassurant. Oui, parce que vu l'argent et l'énergie dépensée par ses soutiens pour le faire entrer dans la tête des gens depuis plus d'un an, la couverture médiatique dont il a bénéficié, le type il a quand même fait toutes les couvertures de journaux, de Paris Match, en passant par Mozes Travaux, Psychologie Magazine, Chasse et Pêche, Journal du Mickey, dans un deuxième tour face à Marine Le Pen, s'il avait pas gagné, mais c'était à désespérer de faire de la propagande. Dire à 39 ans, le mec président de la République, à 39 ans, il a les clés de l'arsenal nucléaire français. Quand tu penses que moi, à 39 ans, j'ai même pas passé le code. mais ça fait réfléchir, quoi. Donc la passation de pouvoir aura donc lieu dimanche entre François Hollande et Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire? J'en ai une petite idée. Richard?
Autre Emmanuel, à chez toi, je t'en prie, fais comme chez toi.
C'est bientôt le cas.
Monsieur le Président, je vous remercie.
Pas de chichi, Emmanuel.
appelle-moi François, c'est fou ce qui nous arrive. La première fois que l'on s'est vu dans ce bureau, c'est quand je t'ai proposé de devenir mon secrétaire général. Tu étais tout timide. On aurait dit à Alicia qui faisait son stage de fin d'année. Et maintenant, te voici président. Je pleure un petit peu. C'est vrai, le temps passe vite. Vous avez été un professeur pour moi. C'est vous qui m'avez tout appris. Oui, oui, je t'ai tout appris. Oui, oui. D'ailleurs, Brigitte m'avait prévenu. Hein, Emmanuel, il adore niquer ses professeurs.
Excusez-moi.
Non, mais je suis désolé, François. Je n'ai jamais voulu vous trahir. Ah, ce n'est pas un reproche. Emmanuel, en politique, il faut niquer. J'ai fait de la politique toute ma vie et j'ai toujours niqué. Tu imagines, je suis resté 10 ans secrétaire du Parti Socialiste. J'ai niqué un nombre incroyable de militants. Hein, politiquement, j'ai le CV d'un acteur porno. Non, je suis très fier de toi. Tu sais, tu es un petit peu... J'étais une sorte de chenille, tu es le papillon que j'aurais aimé devenir. Et ça ne va pas vous manquer de ne plus être, de ne plus être président ? Oh non, tu sais, être président, c'est comme la galette des rois. Tu es content d'en manger au début, mais au bout de 3 jours, ça te gave. Et puis, mon meilleur ami n'est plus là. C'est plus tout à fait pareil. Votre meilleur ami ? Vous parlez de Jean-Marc Ayrault ? Non, Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais été aussi populaire qu'à côté de lui. Pour que je sois perçu comme un beau président, peut-être aurait-il fallu qu'il le soit encore. On est un peu comme les Vamps. Vous savez, ce duo de comiques, on a eu beaucoup moins de succès en solo. Et puis, le problème des Français, c'est qu'ils veulent la mode de vie de droite avec des idéaux de gauche. Ils ont voté pour moi parce que j'avais dit « Bon ennemi, c'est la finance ». Et 5 ans plus tard, ils ont élu un banquier. Pas comprendre, c'est les Français. Présider, Emmanuel, c'est apprendre à échouer avec dignité. Sauf votre respect, monsieur le Président. Je n'ai pas l'intention d'échouer. Je veux réformer profondément ce pays. C'est mon projet. Bien sûr, Emmanuel, bien sûr que tu n'échoueras pas. Tu es rigolo. Tu es naïf, mais tu es rigolo. Mais méfie-toi, c'est fini l'état de grâce pour les nouveaux présidents. Avant, on avait 6 mois avant de se faire haïr. Aujourd'hui, on se fait haïr 6 mois avant d'être élu. Et voilà, c'est tous les conseils que j'ai envie de te donner. Il faut que je vous laisse, monsieur le président. Là, François, je veux dire, j'ai une interview avec Paris Match. Je comprends. Moi aussi, j'ai donné des interviews avant. Mais je peux rester un peu seul avant que tu me raccompagnes à la voiture ? Bien sûr, François. Enfin, je veux dire, bien sûr, monsieur le président. Au revoir, Olivier. Tu vas me moquer.
Tu veux nous faire pleurer ?
Merci pour Olivier. La bande originale,
lundi, sur France Inter. Et merci, Richard.
Avec Father and Son, quand même, père et fils, hein, l'enchaînement, il faut quand même traduire aussi le titre de cette chanson, lourde en signification. Exactement.
Qu'est-ce que c'est cette chanson ?
C'est Cat Stevens, Father and Son, père et fils, avec le père qui dit « prends soin de toi et tu grandiras loin de moi » et ainsi de suite. Non, c'est une belle chanson.
C'est lui qui avait chanté « My Lady d'Arbanville ».
Exactement, et ça te semble.
J'avais tourné avec Patricia d'Arbanville dans un film et elle était pour moi la muse de « My Lady d'Arbanville ».
Mais je savais tout ça, hein, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
Justement, on va parler musique dans la carrière et dans la vie de Brigitte Fossé, puisque dans les années 50, il y a le phénomène des Jeux interdits. Et à ce moment-là, Brigitte Fossé, écoutez.
J'étais sûre que tu allais choisir celle-là.
J'adore. Nat King Cole.
J'en ai donné 60, mais j'étais sûre que les choisir.
Acerca te mas. On va parler un tout petit peu des Jeux interdits, parce que pour la petite histoire, demain nous recevons une jeune comédienne qui est à l'affiche d'un film avec Éric Judor.
Catherine Deneuve.
La comédienne s'appelle Célia Rosich. Et dans une interview, elle dit tout simplement... J'ai eu envie d'être comédienne. C'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, je crois, 26 ans, je pense.
22, 37.
Elle est en 84.
84 ans.
Tout d'un coup, je pense à sa bio, je l'ai dans la tête.
Disons.
Oui.
33 donc.
Vous savez ce que dit Truffaut dans L'amour en fuite par la bouche de Marie-France Pizier. Quand on aime, pas de chiffres, pas de date.
D'accord. Donc cette comédienne, jeune comédienne, dit dans une interview, j'ai eu envie de devenir comédienne quand j'ai vu Brigitte Fossé dans les Jeux interdits. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de comédiennes que vous avez fait naître, que vous avez influencées, à qui vous avez donné envie de faire ce métier grâce à Jeux interdits. Vous avez dû souvent l'entendre, ça.
C'est incroyable. Non, pas tellement. Mais j'ai souvent entendu des dames venir me voir en me disant... quand j'étais petite, je vous ressemblais beaucoup, on me prenait pour vous.
Mais il y a vraiment, vraiment, au moins sans mentir, 200 personnes, 200 femmes qui sont venues me dire ça. C'est extraordinaire, ça. Mais ceci dit, ce que je trouve extraordinaire surtout dans le fait d'avoir fait Jeux Interdits, c'est d'être entrée dans l'histoire du cinéma et aussi surtout dans la vie des gens, parce que quand je rencontre les gens, je suis un peu comme Georges Brassens, c'est-à-dire j'aime pas trop qu'on m'interrompe, et si je suis avec les miens par exemple, j'aime bien qu'on me dise « Bonjour Brigitte, de loin ça va ?» Je dis « Oui ça va, et vous ça va ?» Et si vous voulez, je tiens beaucoup à rester un peu sauvage, c'est-à-dire avoir une vie privée. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que les gens le comprennent. Parce que moi, je rentre dans leur vie privée dans la mesure où je suis la petite fille qui a grandi, puis devenue adolescente, et ensuite mère, et ensuite grand-mère. Et donc, quelque part, je fais partie de leur famille, mais eux aussi font partie de ma famille. Donc je suis française plusieurs fois, vous voyez ce que je veux dire ?
Totalement, totalement. Comme on approche du festival de Cannes, je parle de Cannes parce que Cannes, c'est là aussi où tout est né. Vous étiez en vacances à Cannes, en famille, et c'est dans une petite annonce du quotidien local qu'il y a eu cette petite annonce de René Clément pour chercher une fille entre 9 et 11 ans.
Oui, c'est ça. Et ma mère et ma tante étaient sous le magnolia en train de boire le café. Et ma mère, très sauvage, a dit « Riquette, fous-lui la paix, tu vas en faire un singe savant. » Et ma tante a dit « Marcel, écoute, je te dis que s'il la voit, je te parie 100 balles qu'il la prend. » Alors, ils ont parié et puis m'ont pas consulté. Et elles m'ont dit « On t'emmène à Nice maintenant, à l'hôtel Rull. » Je dis « Pourquoi faire ?» Elle m'a dit « Pour voir René Clément. » Mais qu'est-ce que c'est René Clément ? Ben, tu vas voir. Et alors, on arrive là-bas et moi, je suis en feuille de vigne avec une ficelle dans les fesses et un boléro comme ça. Et j'ai 5 ans, mais j'ai les nattes sur la tête, donc j'ai l'air d'avoir 3 ans. Et j'ai à droite ma tante, à gauche ma mère dans les mains. Et il y a René Clément qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il y avait à peu près, je sais pas, 150 filles autour d'une table de jeu dans le casino de l'hôtel Rull qui était derrière. Et elles avaient entre 11 et 13 ans. Et il dit « Mais tu es trop petite, toi ?» Alors je lui dis, mais écoutez, j'ai 5 ans et 3 mois quand même. Alors Bella, sa femme qui était sur une chaise en hauteur, comme ça, dit, René, assieds la petite, j'étais dit. Elle était russe. Alors René dit, mais enfin Bella, tu vois bien qu'elle est trop petite, on fait un petit bout de chou, voyons. Et moi, assieds la petite, j'étais dit. Alors je m'assieds, il raconte une histoire et il dit, qu'est-ce qu'il a compris ? Toutes les filles de 12, 13 ans, 11 ans, terrorisées, ne disent rien. Moi, je lève le jeu, moi j'ai compris. Alors il dit, toi, mon petit bout de chou, mon petit poisson. J'avais horreur qu'il m'appelle comme ça. Il m'a appelé comme ça pendant tout le film. Mon petit poisson, mon petit canard, insupportable. moi, je voulais vraiment être traitée comme une adulte. Et alors il arrive, il me dit, alors viens. Alors je fais le tour, il dit, raconte-moi. Alors je raconte l'histoire. Après il me dit, tu peux la raconter en riant. Alors je raconte en rigolant. Et après il me dit, en pleurant. Je la raconte en pleurant. Alors il se tourne vers Bella et dit, Bella, tu avais raison. Je veux la revoir. Et voilà. Et après c'était parti. C'est comme ça que ça s'est passé.
Belle histoire.
Et ma mère et ma tante se sont toutes les deux dégonflées. Et elles ont dit, c'était un pari, c'était pour rigoler. Et j'ai dit non. Moi, je veux le faire.
Maintenant, je veux le faire. Et c'était un court-métrage au début, c'était pas un film ?
Oui, et comme Jacques Tati a vu le court-métrage, il a dit, mais enfin René, il faut faire un grand film. Alors, on a fait des raccords 6 mois plus tard. J'avais perdu mes dents, donc le professeur Lebovitch m'a fait un raccord. Et après, j'ai épousé son assistant.
Mais 6 ans ?
20 ans plus tard.
Non, ah oui.
Non, s'il te plaît. On racontera tout ça donc à Célia Rosich qui sera notre invitée demain. Le Grand Môle, justement, vous en parliez tout à l'heure, c'était en 1967 et là vous écoutiez Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des lilas.
Ah, j'adore ça.
Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest.
Quand vous écoutez cette musique, vous vous retrouvez où ?
Je me retrouve dans la cuisine avec maman, en train de l'écouter et de la chanter à tue-tête. C'était la chanson préférée de ma mère, qui avait énormément d'humour, parce que son père, Maurice Feuillade, écrivait des chansons comiques pour les revues du théâtre de Boulogne-sur-Mer. Et donc là, elle avait retrouvé un peu la veine. Et voilà, c'est toutes ces chansons que j'aimais. J'aimais aussi les chansons de Philippe Clay. Un fil sous les pattes, maillot écarlate, je suis funambule de mon état. À 20 mètres en l'air, la 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 la, je manque de me ficher la gueule par terre. La 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 la. Oh, j'aurais aimé être chanteuse, malheureusement.
Je vois.
c'est terrible. J'adore votre émission.
C'est gentil, mais on n'est pas là.
C'est un petit appel du pied, Nagui. On va commencer par n'oublier pas les paroles et après on ira sur Taratata.
C'est ça. C'est un nouveau départ pour vous, le Grand Maulne, parce que il y a eu 11 ans de quoi, de purgatoire, de privation, parce que les Jeux interdits avaient été un tel phénomène que vous ne pouviez rien faire d'autre.
Non, en fait, je voulais pas être comédienne. Je voulais écrire. C'est-à-dire que je suis passionnée par la poésie, les lettres. J'aime beaucoup la littérature romanesque et aussi la littérature poétique et même la littérature religieuse. J'adore la Bible, j'adore la Mahabharata, toutes ces choses. Je voulais écrire. Et puis,
je vous rappelle que vous avez fait Cagne, Hippocagne, que
oui,
vous avez fait philo aussi.
Je voulais être journaliste ou écrivain. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de drames d'âme dans ma famille, beaucoup de divorces, beaucoup de déchirures, beaucoup de, comment dire, il y a eu des conflits aussi, des conflits de milieu social. Et moi, je souffrais beaucoup de ça. Parce qu'il y avait des gens très riches, des gens très pauvres, des gens nobles, des gens très, 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 très bâtards. Et moi, je voulais trouver l'unité entre tout ça. Donc, quand on est venu me demander de tourner dans le Grand Moule, je me suis dit, voilà un métier où, finalement, l'âge, le statut social, ça n'a pas d'importance. Il y a des équipes, c'est sympa. Et voilà. Et depuis, je suis très, très, très heureuse de faire ce métier.
Et vous le transmettez en tout cas avec passion. En 78, vous êtes nommé au César et là vous écoutiez Laurent Voulzy.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que tu
as. Elle se lève et elle danse.
Faire le cirque dans le quartier. Et
la petite fille chantait.
Et la petite fille. Ce qui est drôle, c'est que ce soit Gainsbourg ou Laurent Voulzy. Ce sont des stars qui ont toujours eu aussi des muses qui ont cherché à faire chanter d'autres, des comédiennes ou d'autres, ouais, souvent des actrices pour Gainsbourg. Je suis en train de chercher, mais ça a souvent été.
Mais j'ai chanté avec Gainsbourg. J'ai chanté avec Gainsbourg. Je me sens belle dans un lainage lavé avec Woolwich. Il a été très dur.
C'est pas ça plus connu, mais...
C'est ça qui a pu se rapporter, peut-être.
Non, parce que j'avais oublié de payer mes impôts cette année-là. Et c'est justement l'année où il m'a proposé de faire Woolwich, comme Romy Schneider et tout ça. Et donc, je me suis dit, je peux pas refuser, c'est pas possible, parce que j'avais une tranche qui... Ouais, C'était surtout pour la joie de dîner très souvent avec Serge et Jane, que j'adore, vraiment.
On parle de Paul Newman, parce qu'on est dans l'année 78, justement, où vous incarnez l'épouse de Paul Newman, dans Quintette de Robert Altman, et tout à l'heure, vous parliez justement de votre rencontre avec Paul Newman et Robert Altman. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand j'évoque cette période où vous écoutiez Woolsey et vous croisez ces stars incontournables du cinéma?
Bah, écoutez, je présentais donc Croque la vie de Takela et L'homme qui met les femmes au Festival de San Francisco. Et comme j'avais rencontré au Festival de Cannes Robert Altman, il me dit, si tu vas à San Francisco, téléphone-moi, prends un avion, viens passer 3 jours à la maison. Et donc, je lui téléphone, il me dit, mais viens. Puis alors, j'irai te chercher à l'aéroport. Il va me chercher à l'aéroport et il me dit, tu es bien assise? Je lui dis, oui, je suis dans la voiture. Alors, il me dit, alors écoute bien, ce soir, tu vas dîner avec Paul Newman et il sera ton mari dans mon prochain film.
Incroyable.
Alors là, j'étais sidérée parce que ça avait toujours été mon rêve de rencontrer Paul Newman à cause de ses yeux turquoises et surtout de ce qui émanait de lui. Puis je trouve qu'il ressemble un peu à papa, sauf que papa a les yeux noisettes. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Il a 101 ans, il a eu 101 ans le 25 avril.
On papa. L'embrasse.
Bravo Roger.
Bon anniversaire, on l'embrasse fort.
Et je dois dire que...
Mais là, Brigitte, soyons clairs. Là, vous étiez...
Non, on se dit pas, ça va être amical.
J'étais pas amoureuse de Paul Newman parce qu'il ressemblait à papa.
Ah bah oui, mais non. On sait très bien ce que ça veut dire. Oui, on
mais elle peut rien dire, il y a son papa qui écoute.
Non, voilà, c'était mon rêve. C'était mon rêve de le rencontrer en tant qu'être. Et j'ai pas été déçue. Alors, on m'avait dit qu'il était très timide et qu'il voulait jamais déjeuner et dîner avec ses
partenaires.
Enfin, Géraldine Chaplin m'avait dit, il n'y a pas eu moyen de déjeuner avec lui, il est trop, trop timide. Alors j'ai bien réfléchi. je me suis dit, comment est-ce que je peux lui faire comprendre que moi, je suis timide aussi. Alors, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, hey, fuck you, let's have lunch. Je lui ai dit des gros mots.
Ah oui, carrément. Ah, oui, oui.
Comme ça, il a compris
que... Vous savez, attends, c'est une révélation.
Moi, c'est une révélation, Brigitte Fossé, aujourd'hui, là, parce que je pense que c'est la comédienne la plus rock'n'roll que j'ai jamais vue de tous les temps.
J'adore.
Il lui avait dit, je vais pas répéter.
Si, fuck you.
Oh là là.
Oui. Ah ouais, comme ça, au téléphone.
Vous savez que fuck you, ça a deux sens quand même aux États-Unis. C'est pas que une insulte. Hein, c'est...
Mais c'est pour ça qu'il est venu alors après.
Quoi, focus?
Non, fuck you.
Fuck you!
Bah oui!
Ah non, mais j'ai dit fuck you à la fin de la phrase. J'ai pas dit hi fuck you, là j'ai un peu forcé.
Voilà,
là,
c'est ce que j'allais dire. Oui.
Non, mais je lui ai dit let's the fuck have a nice lunch in the Chinese restaurant. C'est-à-dire, comme je savais qu'il aimait les restaurants chinois, je me suis dit je vais lui faire comprendre que moi ce qui m'intéresse, c'est. Voilà, de parler avec lui tranquillement et que voilà, je voulais avoir la même relation que j'ai eue avec François Truffaut. Je voulais avoir une relation de mec à tel point qu'on était devenus copains comme pas possible. Et le matin, on prenait la même voiture et après on prenait le petit déjeuner dans sa caravane. Il commençait à lire le journal, il s'endormait, il ronflait, il se réveillait, on commentait le journal. On a eu un rapport très viril, très très agréable.
Mais c'est marrant parce que vous êtes quand même la seule femme qui se dit je vais rencontrer Paul Newman, ouais. Mais il se passera rien, ouais. Monsieur Newman. Non, je sais ça tout de suite. Moi je te conçois pote.
Oui mais t'as vu là il vient.
Bah ouais c'est bizarre.
Oui parce que en fait si vous voulez dans le travail. On investit beaucoup l'imaginaire.
Écoute bien, Daniel.
C'est pas la peine de convoquer la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, si je dois jouer le rôle de la femme de Paul Newman, j'ai pas besoin pour autant de lui faire du charme dans la vie. Parce que justement, il faut énormément de confiance pour jouer l'amour.
Si vous ne voulez pas travailler le personnage, ça vous regarde.
T'as entendu, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de coucher avec toi, Daniel.
Je l'avais dit, j'ai beau convoquer, personne ne vient. Donc ça change rien du tout.
Brigitte Fossé, l'invité la plus rock'n'roll qu'on ait jamais eu depuis 3 ans, on est d'accord.
Bah, c'est officiel, ça fait 20 minutes, je suis officiellement amoureux de Brigitte Fossé.
Ah bah ouais, je suis plus longtemps. Nous avons demandé.
J'ai mis une pièce en premier quand même, si je peux me permettre.
C'est vrai.
Ah, t'as mis juste une pièce, mais d'accord.
Viviane Holstein, psychanalyste, qui est auteur de La magie du couple heureux aux éditions Josette Lyon, d'être notre invité. Merci, Liliane, de venir à ce micro.
Ah oui, merci.
Parce que comme nous avons ce film, Faut pas lui dire, dans lequel Brigitte Fossé joue la maman de ses filles avec chacune des vies de couple. Couple plus ou moins mouvementé, turbulente, certaines trompées, d'autres se remettent en cause. Justement, vous parlez de la magie du couple heureux. Est-ce qu'il y a une magie dans le couple? Et puis, quand on dit magie, généralement, c'est qu'il y a un truc ou qu'il ne faut pas y croire derrière.
Alors, la magie, pour moi, c'était l'idée que dans un couple, il y a une transformation. Quand on arrive à tenir le coup et à s'aimer suffisamment fort, au fur et à mesure, on devient meilleur que ce qu'on était au départ.
Donc, couple grandit.
Le couple grandit et on grandit aussi personnellement à travers ce couple.
D'accord,
mais en vrai, c'est vrai.
Sérieux, vous étiez sérieuse?
Bien sûr.
Déjà, un couple heureux, ça veut dire que chacun est heureux et qu'il y a un équilibre dans cet épanouissement.
Chacun y trouve son compte, effectivement, individuellement et globalement dans le couple.
C'est pas que l'un des deux s'est sacrifié entre.
Ça serait pathologique. Hein, ça fait partie des mauvaises raisons de rester ensemble.
C'est souvent arrivé.
Oui, ça arrive fréquemment. Bien entendu, c'est le risque majeur. Au bout de quelques temps, c'est de se perdre.
Alors, au bout de quelques temps, il y a les fameux virages de 7 ans.
Oui, de 7 ans, de 10 ans, effectivement. Mais,
c'est vrai
oui, il y a des zones de danger, on va dire. Et notamment quand les enfants arrivent, ça devient un petit peu compliqué.
Ah
voilà.
Toi, tu veux parler à ta femme maintenant?
Ça devient un peu compliqué parce que l'intérêt de très souvent la femme, il faut bien avouer, se déverse massivement sur les enfants.
Ça, c'est vrai.
Et bien entendu, la relation sexuelle.
Les deux jeunes papas là, qui sont en train de faire leur outing.
La relation sexuelle, le désir, le côté un peu dingue qu'on peut avoir quand on est un jeune couple, eh ben, ça se calme largement. Et là, il peut y avoir...
Mais ça revient.
Ça doit revenir.
Eh ben, je vous le dis, ça revient.
Absolument.
Dans les couples...
Vous allez tourner dans un film, Nagui?
Non, je voulais juste dire à ma femme que je l'aimais.
Mais nous aussi, on vous aime, madame.
On dit souvent dans les couples qu'il faut des compromis, qu'il faut trouver l'équilibre, que chacun doit trouver sa place. Là, dans le film, on parle de mensonges. Faut-il de petits mensonges pour qu'un couple soit heureux?
L'essence même du couple, c'est d'abord la confiance, hein, c'est la cohérence dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Donc des petits mensonges, ça peut arriver quand on essaye d'éviter que l'un ou l'autre soit blessé.
Mais les
grands mensonges sont vraiment problématiques et peuvent être rédhibitoires et sonner le glas.
Qu'est-ce que c'est un grand mensonge?
Une trahison, une trahison véritable, tromper la personne avec laquelle on vit, ça peut être un grand mensonge.
Surtout, ça finit toujours.
Mais faut pas le dire non plus, parce que si vous le dites, alors c'est lamentable.
Il faut pas le faire.
Brigitte, au début.
Mais je suis d'accord.
Genre, je mange avec tout le monde, mais il se passe rien. Mais par contre, mais comment on fait pour tromper?
Non, j'ai jamais dit ça.
Je crois qu'elle sait.
Non, je m'avance masquée.
Alors, bien, c'est Nagui qui est sort sourire, roman pas, on trompe pas, mais arrêtez, c'est la vie.
Non.
S'il vous plaît.
Non. Ah non.
Pas forcément.
Non.
Arrêtez tous les deux, là. Je vous vois, là. Avec
non, non, pas forcément. Pas forcément. Mais si j'ai un petit conseil, humble à donner, c'est le problème. En tout cas, je ne sais pas chez les filles. Le problème chez les garçons, c'est, certains se marient et après, quelques années de mariage, se disent, oulala, je suis peut-être passé à côté d'une vie, débridée, et ainsi de suite. Et c'est ils ont leur démon de 45, 50 ans en se disant, allez, je vais aller trouver une gamine et je vais m'amuser. Le seul conseil que j'ai à donner à mes copains, c'est faites-le avant le mariage. Ayez votre vie débridée. Une fois que vous aurez fait le tour du problème, vous aurez surtout trouvé la femme de votre vie. Après, vous vous rendrez compte que c'est magique.
Ça c'est fait.
C'est magique. D'accord. Et tu n'auras pas de regrets avec le côté « Ah, j'ai jamais essayé ».
Voilà. Tu peux me dire ça avant, Nagui.
On peut divorcer, faire le fou et se remarier après, du coup.
J'en sais rien. Je dis juste
certains couples le font.
Il ne faut pas nourrir de regrets se faire des espèces de fausses idées. Et on peut être très heureux avec la même femme pendant des années. Heureusement. Et vous donnez des trucs.
Faut aussi être conscient de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas pas choper beaucoup, toi.
Non, il parle pour lui.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à nous dire.
En termes de liaison, tu sais quoi.
Je rappelle que nous avons une invitée. Liliane, je voudrais juste évoquer les solutions que vous apportez dans votre livre. Parce que vous dites qu'il faut trouver toutes les bonnes occasions pour se rapprocher physiquement. C'est-à-dire se tenir la main, être dans les bras, faire des hugs, dormir l'un contre l'autre.
Mais oui, mais bien sûr, tout le monde a pu en faire l'expérience. Quand on tombe amoureux, on a un besoin forcené de se tenir, de se serrer, on ne peut pas se lâcher, on s'embrasse tout le temps, on fait l'amour tout le temps. Alors bien sûr, on est aidé par des hormones qui nous aident à ce moment-là pour nous coller, ne pas nous détacher, mais au fur et à mesure du temps, avec la quotidienneté, la fatigue aidant, parce que la fatigue, c'est l'ennemi numéro un dans le couple. Hein, les gens prennent un peu de distance et de plus en plus de distance. Et ce qui est tragique, c'est que plus on prend de distance, plus l'éloignement se fait.
Donc, privilégier tous les contacts de la peau, les caresses, dormir nu,
absolument.
L'un contre l'autre. Et vous dites, il y a un truc que je trouve magique, c'est se parler en se regardant. Je suis tellement d'accord avec vous.
Mais oui, c'est fondamental, mais ouais. Ça. Regardez, quand on se rencontre, quand on est un nouveau couple, on ne peut pas détacher nos yeux. C'est impossible, ils sont scotchés.
Alors qu'avec l'habitude, on finit par se parler sans se regarder.
Voilà, les gens se parlent d'une pièce à l'autre, s'aboient des phrases vite fait, mal faites, ne se regardent plus et finalement passent beaucoup plus de temps à regarder leur smartphone ou leur ordinateur que la personne qu'ils sont censés aimer. Et ça, c'est dramatique, on a besoin de se regarder. Les yeux, c'est vraiment... Les dictons populaires le disent, c'est le miroir de l'âme. Mais c'est une réalité, on peut mentir avec tout. On peut mentir avec son visage, on peut mentir avec ses traits, avec ses gestes, avec ses paroles. Mais si vous regardez quelqu'un dans ses yeux, vous allez voir vraiment son âme. Vous allez voir sa profondeur, sa vérité. Elle ne peut pas vous tromper. Donc c'est fondamental de se regarder. Il faut vraiment que les gens qui vivent en couple se regardent, se bouffent des yeux, littéralement.
Vous mettez sa femme en fond d'écran.
Et il y a l'hygiène aussi. Et vous parlez de l'hygiène, ça c'est important.
Oui, parce qu'il y a au bout de quelques temps, il arrive... mais oui, l'hygiène, la délicatesse, les soins qu'on apporte à sa personne, c'est fondamental. Regardez, quand on est dans un début de relation, tout le monde fait attention à ce qu'il met, à ce qu'il porte, il se parfume, il se bichonne, il prend des douches, etc. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de laisser-aller qui est mortifère pour le couple.
Vous dites aussi de ne jamais lui donner l'impression d'être abandonné dans une situation difficile, le protéger, jamais accepter de le laisser dans la peine. Ouais, il y a aussi une solution, hein, c'est de jamais se quitter, même s'il y a une petite fâcherie le matin pour n'importe quelle bêtise.
Jamais s'endormir fâché.
Voilà, exactement.
Jamais se réveiller sans s'embrasser, sans se regarder.
C'est publié chez Josette Lyon, c'est intelligent, c'est aussi doux que la voix de Liliane Holstein. Ça s'appelle « La magie du couple heureux, comment ?» aussi réenchanter son couple si on sent c'est jamais
tout,
trop tard en tout cas.
Jamais, c'est tout à fait possible à tout moment.
Merci Liliane d'être venue nous porter vos conseils et votre douce voix. Revenez quand vous voulez.
Avec
j'adore, j'adore. Elle est bien Liliane.
Ouais, super Liliane.
Entre Liliane et Brigitte là, on est
gâté.
Ah ouais, on est gâté.
Voilà, je voudrais en profiter pour parler d'un bouquin qui vient de sortir.
Ça sera tout à l'heure. Merci. Avec Leïla Kadroumoudadi, Frédéric Tigris, Daniel Morin,
bravo Daniel,
Tom Villa,
bonjour,
et Charles Ordac nous accompagne au clavier, et notre invité Brigitte Fossel.
Bonjour, bonjour.
Brigitte, qui déchire tout, on est d'accord, ah oui, dans cette émission, qui est à l'affiche de Faut pas lui dire, le film de Solange Sicurel, avec Jennifer Bartoli, Camille Chamou, Stéphanie Crayancourt, Tania Garbaski, et donc Brigitte qui joue la maman de ces quatre filles, enfin de trois et d'une qui est venue se rajouter dans l'histoire, et qui est beaucoup plus malicieuse, mais comme dans la vie j'ai l'impression, il faut dire, beaucoup plus malicieuse que ce qui n'y paraît, en tout cas dans les premières scènes, de cette comédie où elles ont toutes des soucis de couple à différentes pour différents motifs en fait, hein. C'est une galerie de portraits de couples ou de relations amoureuses, de manières de se comporter dans le couple totalement différentes.
Oui, c'est ça. J'ai fait lire le scénario à ma fille. Elle m'a dit c'est drôle, ces quatre filles là, c'est mes quatre meilleures amies. Elles sont toutes dans un cas de figure qui ressemble à l'une des quatre.
Non, c'est vrai. Et donc, on se reconnaît forcément dans l'un ou l'autre de ces couples, ou en tout cas, on reconnaît des amis ou des expériences qu'on a pu avoir dans la vie, notamment celle de savoir que soit sa meilleure amie ou son meilleur ami a des problèmes dans le couple et de se dire est-ce que l'on doit ou pas lui dire la vérité. Tout part de là. Faut pas lui dire ou faut lui dire. Elle vote même. Les trois votent de savoir s'il faut ou pas dire à la veille du mariage que celle qui va se marier est légèrement cocu. Et de là part la comédie. Vous évoquiez tout à l'heure une écriture de livre, ce qui est vrai en plus. Vous publiez plusieurs livres.
On a fait un livre avec Catherine Salvia, qui est sociétaire honoraire de la Comédie Française, et Marie Sénèque, qui est une pasteure protestante, qui s'appelle « La passion du verbe ». C'est-à-dire qu'on a toutes les trois, pour X raisons, une passion pour les grands textes, les textes bibliques, ou les textes poétiques, ou les grands textes français, Victor Hugo, enfin j'en passe. Mm-hmm. Et donc, on a été réunis par un éditeur qui s'appelle Serge Serkissian, et qui a donc les éditions Onésime. Et on s'est rencontrés pendant 3 jours, et on a parlé de notre amour de la langue, du verbe. Et pourquoi? Et également de nos élans poétiques, de nos élans religieux. Et c'est vrai que c'est pas du tout, comment dirais-je, il n'y a pas de prosélytisme dans le livre, mais c'est juste pour témoigner, parce que nous sommes des femmes. Bon, Catherine et moi, on a le même âge, donc en 68, on a été comme ça.
Militante,
féministe, etc. Et maintenant, on savoure notre liberté. Et on veut aussi parler
tout
de la
restant,
féminité.
Tout
de
en
la
restant
féminité.
En veille aussi et en restant féminine, parce que le combat n'est pas fini.
Voilà,
et il faut rester féminine.
C'est ça maintenant ce qui est difficile.
Ouais. Vous venez de terminer le tournage de la série Quartier des banques de Bernasconi, pardon. Oui, oui. Vous remettrez le prix François Chalet au Festival de Cannes dont nous parlions tout à l'heure, ça sera le 27 mai. C'est une œuvre cinématographique traduisant au mieux la réalité de notre monde. C'est ce prix-là que vous remettrez. Le 9 juin, vous ferez une lecture de parole, l'excellent texte de Jacques Prévert. Ça sera La Cité de la Mer à Cherbourg. Vous serez le 17 juin à un concert lecture consacré à Scott Fitzgerald et George Gershwin. Et là,
avec un merveilleux pianiste qui s'appelle Eric Arts.
Voilà, au Festival Perpignan Art Déco. Le 24 juin, vous lirez des textes, Les chants en littérature, dans le cadre des flâneries d'art contemporain dans les jardins
d'André Aferréol à Aix-en-Provence.
Le 2 juillet, vous serez au Festival Auribeau-sur-Seine à Auribeau-sur-Siagne. Là, on est toujours dans le sud. Le 7 juillet.
Ah bon, qu'est-ce que je fais là?
On vous enverra votre agent.
agenda, Brigitte?
J'ai oublié.
Vous avez oublié? D'accord. Le 7 juillet, vous allez donner un nouveau concert lecture avec le François-René Duchâble pour une amitié romantique. Le 20 juillet, vous lirez
sur
la correspondance.
Madame de Stahl.
Voilà. Le 20 juillet, ça
avec
sera.
Avec Alain Carré.
Le 20 juillet, ça sera une correspondance de Matisse et de Rhin à Collioure. Le 21 juillet, vous lirez des textes de Salas Tétier au théâtre Le Verbe Fou à Avignon. Le 29 juillet, vous lirez des textes de Scott Fitzgerald à nouveau au Festival des mots à Saint-Laurent-du-Var. Vous n'arrêtez pas.
Non, non, en août aussi d'ailleurs, je vais à Arras, je suis très contente.
D'accord.
Parce que comme ça, je prendrai 8 jours au Touquet pour me refaire un peu.
On se refait au Touquet.
On se refait au Touquet.
Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé dernièrement au Touquet?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, il y a pas quelqu'un qui habite au Touquet là?
Bah oui, Emmanuel Macron habite au Touquet avec Brigitte.
Ah oui, bah il est en marche. Non, non, maintenant il est la République en marche.
Oui. Peut-être qu'il passera au festival.
Tandis que moi, je suis toujours en marche vers la République, pour la République et par la République. Et je suis pour un État laïque, qu'on se le dise.
C'est dit. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Allez,
quoi?
Donc 5 jours et c'est la quille pour François. Pour François Hollande, il n'en peut plus de l'Élysée. Depuis qu'il a annoncé sa retraite, plus personne ne le calcule là-bas. Il paraît que la semaine dernière, il a reçu des amis. Au bout d'une heure, l'apéro était toujours pas en place. Et quand il a demandé au personnel, vous pouvez m'apporter le champagne là? Le gars qui était assis sur le canapé et qui jouait sur son téléphone lui aurait répondu, va le chercher toi-même, tu vois pas que je suis occupé. Humiliation permanente, voilà son quotidien au pauvre président. Alors pour changer les idées, hier soir, il était dîner avec Angela Merkel. Son dernier repas officiel international, il le passe avec Merkel. Si ça, c'est pas la poisse qui continue. Tu imagines le repas? Déjà qu'elle avait pas grand chose à lui dire quand il avait du pouvoir. Là, laisse tomber. Ça a dû être mais d'une torpeur, ce dîner.
Très sympa, ce restaurant. C'est quoi?
Une taverne.
Une taverne?
Mm-hmm.
Ah oui, bien sûr. C'est très bon ça. C'est quoi comme recette?
Choucroute.
Choucroute. Bien, bien, bien. Et si tu dois pas, ça va, à part ça, ça va la famille?
Ya.
Moi cet été, je vais en Corrèze. Et vous?
Nein, pas Corrèze pour moi.
Ah, ok. Mm. Okay. Au devant de l'addition?
Ya vol. Bref, ambiance de merde. Sinon en France, à 6 semaines de la Fashion Week de Paris, Manuel Valls, qui a toujours un coup d'avance, relance avec fracas une mode bêtement oubliée. Oui, Manuel Valls relance la mode de la veste réversible.
Une veste courte, toute saison, qu'on peut retourner hyper vite. Regardez Manuel défiler sur un Mitch de DJ Pablo. Attention, regardez bien, dans le dos de la veste, il y a marqué PS. Et hop, il la retourne en moins d'une seconde et maintenant on peut lire en marche. Oh là là, formidable retournement de veste. C'est du grand art. Bravo Manu Valls.
Punaise, il est fort ce gars, il est fort le Manuel Valls. Le gars, il a pourri Macron pendant la campagne. Avant-hier, Macron est élu. Ce matin, il demande l'investiture du clan Macron. Ce soir, si Monaco se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, il dira qu'il est favorable aux paradis fiscaux. Si c'est la Juventus, il bouffera des panini pendant une semaine. Et moi, ça me fout un petit peu la trouille. Imagine si c'était Marine qui avait été élue. Le Manu, il allait s'acheter un casque à pointe, il file en région PACA, il chantait Lily Marlène. Tout cela, mon Dieu, est bien compliqué. Si seulement les choses pouvaient être aussi simples que sur la compagnie aérienne All Nippon Airways.
C'est quoi ça?
Compagnie réputée, il est vrai, pour son service et ses multiples, mais très professionnelles, petites attentions auprès des passagers. Et là, un gars qui avait demandé un repas sans gluten, puisqu'il est allergique, a été quelque peu surpris quand même par l'esprit de synthèse du transporteur nippon. Plus simple, on peut difficilement faire. Sur le plateau repas sans gluten du passager, il y avait une banane et c'est tout. Voilà. Vive le Japon, à demain les amis.
France Appel, Maggie, la bande originale.
Brigitte Fossé, notre invitée, on parle de la sortie en DVD de Faut pas lui dire, le film où elle est aux côtés de Jennifer Bartoli, Camille Chamou, Stéphanie Crayancourt et Tania Garbarski. C'est un film, le premier film de Solange Sicurel. Mais voici son brouillon de culture sur mesure par Leïla.
Oui, Brigitte Fossé, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Vous la dites, ma carrière reste à faire. C'est étonnant quand on lit ça. Vous disiez ça l'année dernière.
Mais oui, mais j'ai de l'avenir, non? En tant que vieille dame.
une très belle définition de la réalité des actrices au cinéma. Sur ce plateau, Agnès Jaoui, il y a 15 jours, nous disait pour le très beau film Aurore que ça ne s'améliorait pas pour les actrices qui avaient plus de 50 ans. Les rôles qui sont proposés aux actrices de cet âge-là, vous, vous le vivez comment, Brigitte Fossé ?
Écoutez, moi, je me dirige toujours vers ce que j'aime. Donc, j'ai plutôt une vision très positive de la réalité. C'est-à-dire que, en fait, je n'attends pas spécialement un rôle. J'attends des rencontres avec des gens. Et voilà, j'ai accès maintenant à un univers qui me passionne, qui est l'univers de la musique. Et j'ai eu la chance de travailler avec des merveilleux musiciens comme Yvan Rie, Pascal Amoyel, et de concevoir des spectacles musicaux qu'on a donné un peu partout en France et aussi à Gaveau avec François Chaplin, et je me passionne pour ça. Et puis bon, je vais au cinéma, je vais voir les jeunes cinéastes, j'adore, je suis toujours prête pour tourner. Et quand on m'appelle et que je ris ou que je pleure en lisant le scénario, j'y vais. Mais en même temps, je suis tout le temps active, je suis tout le temps en balade, je suis tout le temps en train de faire autre chose. Là par exemple, j'ai fait un livre sur Victor Hugo pour les éditions du Cerf. La conférence de presse, ce sera le 16 mai au CERF. Donc je suis tout le temps occupée, je suis un peu comme une étudiante, je lis la nuit, j'ai des passions, j'ai beaucoup de passions pour la peinture, pour la musique, et je suis tout le temps en avant. Il n'y a pas que le cinéma, je fais beaucoup de théâtre aussi. J'adore le théâtre, et puis chaque année je tourne pour la télé assez régulièrement. Donc voilà, je suis ouverte à tout ce qui peut arriver, mais je n'ai pas une idée précise de ce qu'il faut que ce soit ma vie après 50 ans et gnagnia, j'ai pas de plan, j'ai pas de système. J'avais vu une pièce formidable avec Sacha Pitoëf quand j'avais 10 ans qui s'appelait Le système Fabrizi. Alors c'était l'histoire d'un banquier, ça marchait toujours son truc, on se demandait comment ça marchait et à la fin on voyait qu'il avait pas de système. Moi j'en ai pas, j'ai pas de site, j'ai pas de système.
Vous avez des envies?
J'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies, je suis ouverte. Et puis bon voilà, c'est tout, ça vient. Comme disait Arletty, il faut marcher au vent, la gorge ouverte. Voilà. Moi, je marche comme ça et il y a toujours du vent, c'est sensationnel.
on poursuit avec un autre son.
Belle, même le parquet peut devenir notre miroir. Et cette bête parle le langage des hommes. Qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle mange?
Il m'arrive de lui donner à boire.
C'est un extrait de La Belle et la Bête de Cocteau.
Ah, c'est très important pour moi ce film-là.
C'est le premier, votre premier film, un des premiers films que vous avez vu, je crois que c'était...
Et entendu surtout, parce que j'avais pas le droit, mon père et ma mère faisaient venir le prof d'anglais qui s'appelait Joseph, et il se faisait des films. Et c'est-à-dire qu'il y avait la pellicule qui descendait comme ça. Et moi, je voyais, on préparait la pellicule. On me disait, maintenant, Brigitte, tu vas te coucher. Et j'avais 5 ans.
Donc, vous rembobiniez la pellicule dans le projecteur?
Non, il y avait une projection organisée à la maison.
La projection allait commencer et on me disait d'aller me coucher.
Mais quand vous dites, je voyais le film, c'est-à-dire vous voyez physiquement la pellicule. Vous n'avez pas vu le film et vous montiez vous coucher.
Oui. Et donc, j'étais au premier étage. À l'époque, j'avais une très bonne oreille. Donc, j'écoutais comme ça La Belle et la Bête dans le trou de la serrure. Et j'entendais la voix de Jean Marais, tout ça. Et j'imaginais une bête absolument épouvantable. Et j'avais tellement peur que j'allais vite m'endormir et me coucher. C'est comme ça que j'ai entendu mon premier film par l'oreille. Et votre je peux vous dire que quand je l'ai vu après réellement, j'ai trouvé ça tellement beau. Cette image, ce noir et blanc. C'est magnifique, c'est magique. Et voilà, Cocteau, je l'ai connu parce qu'il était à Cannes et souvent on le rencontrait. Et c'était quelqu'un qui me fascinait. Et voilà, j'aime beaucoup sa prose. Je trouve qu'il a inventé l'écriture moderne avec les phrases courtes. C'est formidable, le grand écart et toutes ces choses magnifiques. Et puis j'ai monté un spectacle à la Maison de la Poésie avec ma fille.
Avec Prévert, vous êtes servi aussi en lisant paroles. C'est formidable aussi, l'écriture de Prévert.
Et quel est le premier film que vous avez donné à voir à votre fille, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure?
Je crois que c'est La Flûte Enchantée de Mozart. On est allé voir La Flûte Enchantée à Megève. C'était l'année où elle avait appris à faire du ski en 8 jours. Elle m'avait dépassée. Elle était en classe compétition en 8 jours.
Ne soyez pas jalouse, Sébastien. Ne soyez pas jalouse.
Et la flûte enchantée de Mozart de Bergman, c'est extraordinaire parce que c'est vu par une petite fille et là je le lui traduisais parce que c'était en version originale.
Et s'il fallait constituer votre panthéon cinématographique, si vous deviez partir avec 3 films, il fallait choisir dans tous les films que vous avez vus, quel serait votre podium ?
Charlie Chaplin d'abord. Oui. C'est le premier film que j'ai vu dans ma vie.
Lequel ?
Les temps modernes.
Lumières de la ville ou...
Les temps modernes.
Comment ?
Les temps modernes.
Les temps modernes. Ensuite, West Side Story, parce que j'adore Bernstein et puis j'aime surtout la comédie musicale et les acteurs sont extraordinaires et je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Chaque fois que je le revois, je me dis oh, c'est fantastique. Et puis, il y a un film d'Akira Kurosawa que j'aime particulièrement qui s'appelle Akiru, Vivre. Et c'est l'histoire d'un homme qui vit avec une jeune fille, c'est sa petite fille, je ne sais plus, il y a très longtemps que je l'ai vue. Et il découvre la vie parce qu'il va mourir. Et moi, je trouve qu'il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier et le thésauriser parce que j'ai toujours pensé, depuis que je suis toute petite, que la vie, ça peut partir comme ça. C'est ce qu'il y a de plus léger, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus précieux. Et donc, c'est très important d'être étonné, d'être en vie à chaque instant. C'est extraordinaire.
Et je finis par un cadeau pour vous, Brigitte Fossé. Un livre, Hollywood ne répond plus, d'Olivier Rajkman. C'est aux éditions Baker Street. On est à Hollywood dans les années 60. La Fox traverse une crise assez compliquée qui menace de faire tomber cette grande maison. Et pourtant, au cœur de cette tempête, il y a 2 films incontournables qui vont sortir. Cléopâtre et Le jour le plus long. Et on voit ainsi dans ce bouquin l'histoire de cette période un petit peu tendue, avec des extraits inédits du journal de Mankiewicz, le réalisateur de Cléopâtre, qui raconte parfois son désarroi puisque le tournage a été complètement explosif. Et ça se lit comme un roman et c'est une traversée de ces années qui sont plutôt pour nous fastueuses en termes de cinéma, mais qui ont été un véritable enfer à vivre avec notamment le grand producteur Zanuck. Donc c'est une épopée de ces hommes, de ces femmes, de ces actrices aussi, de Elizabeth Taylor, de Marilyn Monroe, qui vous est racontée dans ce livre.
J'adore Cléopâtre, c'est très très bouleversant comme histoire. Et Marilyn, je l'adore aussi.
Bah voilà, vous êtes servi comme ça. Faut pas lui dire, c'est le DVD qui sort avec Brigitte Fossé. Le DVD sort aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des couples amoureux de la magie, au sein du couple avec Liliane Holstein, la magie du couple heureux, qui a bien passionné d'ailleurs, parce qu'elle m'a carrément piqué le livre.
Ouais.
Qui a bien passionné Leïla.
Édition Josette Lyon.
Ouais, on voit bien Daniel Morin en tout cas que séparé, ouais, amoureux fou, même sur le point de rompre, le couple est partout et nous fait passer par tous les états. C'est humain, c'est la vie, et que finalement les mensonges.
Oh oui, 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 pour Monsieur Guy. Oh que oui, j'ai envie de crier mon bonheur, de dire bravo, bravo, bravo et encore bravo. Mais à qui ? Ah voilà, mais à qui ? En tout cas pas à vous, Monsieur Guy.
À vous.
Même si, par miracle, vous avez en partie raison, car oui, le couple est partout. Everywhere. Ne serait-ce que ce matin, dans les couloirs de la radio, j'ai croisé Patrick Cohen et Thomas Legrand qui me jetaient leur bonheur à la gueule après leur séance câlin du matin dans le parking à vélo. Après, dans l'ascenseur, je tombe sur Laure Adler en pleurs. Moi, gentil, je lui demande si c'est parce qu'elle venait de découvrir que son invité du soir, Richard Anthony, refusait de venir pour cause de décès il y a 2 ans.
Non.
Même si c'était parce qu'en fait, elle avait croisé son amant Nicolas Demorand dans les bras de 2 jeunes Slovaques à peine majeurs. Tout ça sans vous parler d'Augustin Trapenard que j'ai surpris en train de s'embrasser devant un miroir et qui, après avoir léché ce dernier, a attrapé un microbe de la langue. Donc oui, le couple est partout. Mais purée, c'est pas ça la vraie vie. C'est la mort. Le couple, c'est la mort de la joie. La fin des chaussettes sales dans le salon, la fin des slips qui traînent sur la télé et de tout ce qui fait le sel de la vie, sans compter les demandes extravagantes du style « prendre une douche au moins tous les 2 jours ». Moi-même, en tant qu'aventurier, j'ai essayé un truc fou, vivre libre et heureux dans mon couple. Pour ce faire, j'avais attaché et bâillonné ma concubine dans la chambre. Eh bien, ça a duré 3 jours, le temps qu'alerté par les cris des voisins, la police ne vienne délivrer la bougresse et me jeter en prison par la même occasion. Bref, un échec. Non, monsieur Guy, le couple, c'est une longue et lente descente vers la castration émotionnelle. Une fois encore, mon pauvre ami, vous avez dit...
N'importe quoi !
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Voici Camille dans la bande originale.
Oui.
Camille, avec La Fontaine de Lait Camille, qui sera dans la bande originale en direct. Ça sera le 29 mai. Elle viendra chanter plusieurs titres dans cette bande originale. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors déjà, excuses pour tous les revendeurs de DVD. Tom Villa a toujours eu du mal à prononcer les mots de plus de deux lettres. Désolé pour tous les électeurs de Jean Lassalle qui ont été quelque peu choqués par l'imitation de leur idole par Nagui.
Ouais. Très bonne imitation.
Eh oui, on ne savait pas que...
C'est Frédéric, t'es un salaud, c'est Fred, juste avant
qu'il avait repris, Nagui, juste derrière.
Mais il coule tout seul, hein, moi j'y suis pourri.
On ne savait pas, Lassalle, le berger, polono-roumain. Bon, désolé pour tous les chiens. Fans de Brigitte Fossé et qui ont découvert ce matin une alcoolique fan d'Hitler et de bière tchèque. Je vous rassure, Brigitte, on en a beaucoup comme vous à France Inter.
Merci Brigitte pour votre humeur, pour voilà, ce que vous êtes, ce que vous avez apporté. En tout cas, nous, on a passé une émission
délicieuse.
Formidable, délicieuse. Et le public est d'accord avec nous.
Merci au public ce matin aussi.
Merci.
Je voudrais vous dire une chose. Moi, j'aime beaucoup la culture, mais j'aime aussi beaucoup l'agriculture. C'est très important pour moi.
Oui.
Et je trouve qu'on doit respecter les paysans qui cultivent la terre. Et je voudrais rendre un hommage aux habitants de Bagnac-sur-Célé. Je suis marraine de leur compagnie de théâtre. Et c'est magnifique. Ça s'appelle « Avis de pas sage ». P.A.S. plus loin, sage.
S-A-G-E.
Et voilà, c'est un de mes plus grands honneurs, c'est d'être marraine de cette troupe. Parce que,
Ils peuvent être fiers de.
Parce qu'ils font, à la fois grand hommage au théâtre et à l'agriculture. C'est formidable, non?
Merci Brigitte Fossé. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Pardon pour ce retard, Philippe.
Pas de souci, mais une super transition.
Mais oui, parfait.
Avec l'agriculture.
Bonjour Philippe.
Bonjour les gens, on va faire les agriculteurs.
Et on se fout de ma gueule pour les imitations.
Non, ça va.
Elle était bien son imitation.
Oui. Non, c'est vrai. Une citation vite faite de Cocteau, puisque vous avez parlé de lui.
Absolument.
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.
Oui, c'est pour ça que je me regarde jamais.
Salut les amis.
Ciao, merci. Salut.